présentons dans la série Les Camps radiophoniques un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Chaque fois qu'il la voit, a envie de rire. Tu rajeunis de jour en jour. Attention, tu vas être obligé de t'acheter des couches culottes. Pendant ce temps, Denis, le petit frère de Nicolas, aime faire du cheval, marcher en montagne, jouer au cricket, les livres et le cinéma. Il aime beaucoup les films de son frère et voudrait converser avec lui. Mais Nicolas n'a rien à lui dire, pour lui c'est le petit frère et c'est tout. Il est plus près de sa sœur qui devient de plus en plus garçon manqué. Il se demande si elle ne serait pas lesbienne. Elle rêve de partir dans le Grand Nord, voir les Esquimaux et vivre avec eux. Elle propose à Nicolas, « Tu pourrais partir avec moi? Tu feras un grand film ?» Il lui répond, « Non, les documentaires, ce n'est pas mon truc. Mais si tu veux, j'ai un autre voyage à te proposer. » Elle lui demande, « Lequel ? Celui dont on ne revient pas. » « Non, toujours tes envies de mort. C'est moche. » Il lui dit, et vous, et c'est macabre. Nicolas est une grande période de désœuvrement. Il reste enfermé chez lui à lire, voir, fumer. Il n'a pas envie de sortir, voir du monde. Il se sent bien chez lui. Tout seul. La Warner, à Paris, nous propose un film sur un homme politique qui bégaye et qui est un brave homme. Nicolas fait des essais de scénarios et de dialogues avec des acteurs qui leur fait jouer des scènes. Mais très vite, il s'aperçoit que ça ne marche pas. car faire parler un acteur durant tout un film en bégayant, cela risque de fatiguer le public. Et puis le scénario, à part qu'il bégaye, c'est un brave homme, il n'y a rien et c'est un peu pauvre. Il n'y a pas de scène forte, ce n'est pas un héros de cinéma mais de roman qu'il abandonne. Par contre, pour se distraire, il choisit de faire un film d'après un petit scénario qu'on lui a apporté. L'histoire d'un homme qui se prépare pour partir en vacances et son voyage. C'est un petit court-métrage, mais cela lui permet de ne pas rester inactif. Il tourne avec une équipe réduite en une semaine. Mais pour présenter ce film, il en faut un autre, et ce doit être un long-métrage. Un ami nous propose un scénario sans queue ni tête, l'histoire de deux cousins, dont voilà le résumé du scénario. Sébastien, Thomas, un garçon de 20 ans, ouvre un œil, puis deux, s'étire, écoute les oiseaux chanter au dehors. Il est heureux, ses parents sont partis et il a la maison pour lui tout seul. Pas pour longtemps, car un de ses cousins arrive aujourd'hui pour passer quelques jours avec lui. Sébastien va à la gare. Enfin, le train arrive. Mais ceci n'est pas évident de le chercher avec tous ces gens qui sortent. Et le train est bombé. Enfin, il voit son cousin, garçon de 19 ans, Jean-François, etc., etc. Scénario, Sébastien est amoureux de Jean-François. Jean-François aime une jeune fille qui lui écrit et lui dit qu'elle ne veut plus le voir. Le jeune homme déprime, il devient instable, ce qui rend son cousin triste. Et un jour, il fait la connaissance d'une personne qui lui procure de la drogue. Le jeune se drogue de plus en plus. Sébastien est triste de le voir comme ça, mais veut le consoler. L'autre le rejette. Un soir, en état de manque, il pique une violente crise, traite Sébastien de tous les noms, lui dit qu'il n'est qu'un pauvre con, qu'il ne peut pas comprendre sa souffrance, parce qu'il n'a jamais aimé et qu'il ne connaîtra jamais l'amour, que c'est un nul, qu'il le déteste. Sébastien se sauve en courant et pleure. Puis revient. L'autre lui demande pardon. Sébastien lui avoue son amour. L'autre lui dit qu'il comprend. Ils passent leur dernière nuit ensemble. Le lendemain, ils se disent adieu. Ils sont redevenus amis. Jean-François accepte. Accepter, comment est Sébastien et comprend son amour. Mais il ne peut y répondre.
Allez, réponds, réponds. Sois gentil avec les petites filles, hein.
Voilà, en gros, le scénario, avec beaucoup de choses à changer. Nicolas, au lieu de faire passer l'histoire sur la côte, il tournera à Lyon. Sébastien est puni, il n'aura pas de vacances parce qu'il a raté ses examens. La plage sera remplacée par le grand large. Pour la drogue, ce n'est pas un barman qui le lui propose, mais un squatter dealer. Elle se prendra par piqûre, non dans un verre d'eau. La fiancée lui écrit une lettre de rupture plus dure, plus vraie. Dans le film, on doit ressentir la chaleur, les pieds moites, la transpiration, etc. À la fin, ils couchent ensemble. Jean-François fera ce cadeau à son cousin, une fois, rien qu'une fois, pour un beau souvenir, pour lui prouver qu'il ne le déteste pas. Il y a une grande discussion avec les scénaristes pour leur faire comprendre leur invraisemblance. Puis, ça n'a pas été facile de trouver des acteurs, à cause de la scène de lit. Nicolas n'a pas voulu de folles, mais des gens comme tout le monde. Pour les scènes de nu, comme la douche, la nuit dans le lit, etc., Nicolas a voulu que l'on ne voit pas tout. Faire en plusieurs plans serrés, en fondu l'un sur l'autre, pas trop rapide, lumineux, qui donne une image un peu floue, pour ne pas montrer la peau brute, mais avec un léger décalage de brouillard. Le tournage intérieur se fait dans son appartement. Très peu de meubles, une lumière de soleil très forte. On verra surtout souvent les jeunes gens assis à terre, couchés, marchés, pieds nus, shorts et slips, t-shirts. Le film se tourne rapidement. Il n'y a que 3 acteurs. C'est un film à l'économie. Belle, on ne le sent pas, à cause des belles images et du jeu des acteurs. Nicolas a été heureux de le tourner. Il est présenté avec le court-métrage, il a eu du succès. Pour Nicolas, du point de vue professionnel, tout va bien. Les Américains lui font même des appels, même pour faire un film de science-fiction. La Terre est détruite par des envahisseurs qui rendent les humains esclaves. Nicolas décide de travailler sur ce sujet. Il veut prouver aux Américains que l'on peut faire une guerre des étoiles ou guerre des mondes avec presque rien, avec des jouets et du chromaquet. Par exemple, on filme une rue, puis on la reprend au montage, on fait apparaître la rue sur du bleu. Derrière le bleu se trouve du vert. On découpe ce que l'on veut supprimer. Le bleu découpé laisse apparaître du vert. On supprime le vert pour mettre à la place le nouveau décor. Puis, avec cette image, On lui rajoute, en la faisant apporter sur du bleu, des objets, personnages, même des jouets, soucoupes volantes, etc. Pour faire avancer la soucoupe, qui est fixe, c'est la caméra qui bouge. La soucoupe est sur fond bleu. Elle apparaît sur l'image et bouge, etc. Les Américains sont surpris par la simplicité du trucage. Mais maintenant, il faut écrire une histoire et là, ce n'est pas facile. Nicolas ne se sent pas inspiré pour ce genre de sujet. Il essaye tout de même. Il sait qu'il ne peut pas ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que ce soit une histoire purement technique ou qui se passe dans un vaisseau. Alors, il croit avoir trouvé quelque chose. Donc voici le résumé. Une guerre contre les humains. Ce sont des clones qui ont été faits par des humains et qui se rebellent. Car pour eux, les humains sont impurs. Leur façon de voir, de créer, est incompatible pour eux. Ils ne supportent pas que ce soit des êtres qui ne sont pas comme eux. Ce qui les ressemble, sont des sourasses. Ils en font des esclaves. Pour le travail, les humains se rebellent et se défendent. Les clowns les détruisent ou en font des prisonniers. Ils n'hésitent pas à détruire tout ce que les humains ont fait. Ils ne se croient pas de la même espèce, alors qu'ils le sont, car ce sont des scientifiques qui ont fait des manipulations pour les fabriquer, et ceci d'après les embryons humains et mères porteuses humaines. Mais les clowns refusent cette vérité et se disent, venus d'une autre planète, d'être supérieurs aux humains, car ils peuvent se procréer entre eux et être semblables. En gros, le résumé de la première partie de l'histoire. Et la fin, malheureusement, à force de se procréer entre eux, ils se tarissent, deviennent stériles. Leur pureté les rend fragiles au monde de la pollution du soleil. Ils se dégradent et risquent de disparaître complètement. Les clones seront joués par des marionnettes à forme humaine, simple, mais avec tous le même visage et physique. Pour la fin, en gros, voilà l'histoire. Certains êtres humains veulent les détruire, mais des femmes qui savent avoir été leur mère ont de l'affection pour eux. Malheureusement, ils ne ressentent pour leurs parents et surtout pour leur mère que de l'aversion. Ils les renient, ils disent que ce n'est pas vrai, qu'ils viennent d'une race à part. Ils brûlent tout ce qui représente ou dit leur origine humaine. Et apprennent à leurs enfants une fable comme quoi ils viennent d'une autre planète, merveilleuse, et qu'ils sont venus ici pour coloniser la Terre, qui est habitée par des sauvages, mais qu'un jour ils retourneront dans leur planète. Pour faire ce film, il va falloir construire des maquettes, faire des décors sur fond bleu, pour filmer de vrais, des vues, des gens, et démolir les maisons, rajouter des objets ou en supprimer, mettre des personnages et des marionnettes, choisir un ton de couleur pour le film, dramatiser l'histoire ou faire de vrais personnages. C'est le plus dur à faire car l'on tombe toujours dans le même type de personnage. Pour peaufiner le scénario, Nicolas fait appel à un spécialiste des films de science-fiction, Jacques Morales. Il a loué une maison près de Briançon pour travailler le scénario en paix. Jacques Morales a accepté de travailler avec lui, quoiqu'il soit très pris par les Américains. Il doit préparer la suite de La Guerre des Galaxies, un scénario énorme qu'il doit faire pour 4 films de 4 heures chacun. Jacques a demandé aux Américains un congé d'un mois pour travailler avec Nicolas. Ils se connaissent et s'estiment, quoique Jacques aime mieux des films d'action que des films sentimentaux. Nicolas a loué une petite maison au milieu des arbres. Il se lève à 7 heures. Après le petit déjeuner, ils vont s'enfermer tous deux dans une grande pièce pour travailler. Dans cette grande pièce, il y a 2 tables. Ils travaillent le matin et l'après-midi, ils sortent pour marcher dans les bois. Le soir, ils écoutent la radio ou lisent de bandes dessinées, surtout Pilote. Jacques aime lire des livres scientifiques. Le travail avance lentement. C'est pas facile de trouver une histoire au milieu d'effets spéciaux. Un matin, Jacques lui dit : de toute façon, les gens vont venir voir les images avec des effets. Ils veulent être surpris. Ils se moquent de l'histoire. Surtout, soigne ton image. Les gens veulent en voir la voir plein les yeux. Enfin, ils réussissent malgré tout en rassemblant toutes les idées que je vous ai dites tout à l'heure, qu'avait eu Nicolas, à écrire un scénario, dont voici le résumé. L'histoire qu'ils ont écrite commence par le rassemblement des clones qui se sont attirés les uns les aux autres par leur ressemblance. Un clown est tué accidentellement par un humain qui était sous et tirait des balles au hasard dans les rues. Ce clown était très doux et aimé. Les autres apprennent sa mort. Ils sont furieux, disent que les humains ne sont que des bêtes sauvages et décident de le venger. Ils font des tueries et vouent une haine aux humains. Que ce sont des êtres sans identité, que rien ne les ressemble qui sont ratés. Que doivent être d'une autre race. Et une légende se crée pour les clowns. C'est ces gens dits qu'ils viennent d'une autre planète, qu'ils ont été déposés ici pour s'emparer de la Terre, car eux seuls sont dignes de l'avoir. Une fois la Terre à eux, ils retourneront chez eux. Des clowns qui rêvent de pouvoir excitent les autres en leur faisant croire à cette légende pour qu'ils puissent tuer les humains et s'emparer de leurs biens. Pour que la légende puisse être guérie, ils détruisent tous les documents sur leur origine, et d'après la liste de l'état civil, ils tuent les parents qui les ont conçus, puisque ce sont des êtres humains. Comme cela, il ne restera rien de ce qui leur prouve leur origine humaine, et ils pourront prouver qu'ils sont d'une autre race que celle des humains, la race prodigieuse. Cela leur est facile de prendre le pouvoir, parce que pour des raisons de conformité, ils ont été mis dans l'armée, et ce sont les seuls soldats sur Terre, pour la police aussi. Et comme ils sont d'une naissance sélectionnée, on a pensé qu'ils devraient aussi avoir une intelligence supérieure, et on les a, supérieure à la moyenne, on les a mis dans les transports, l'aéroport, l'enseignement, etc. Ce qui fait que le jour où ils sont décidés de prendre le pouvoir, ils ont déjà les postes de commande de la Terre. Le gouvernement ne peut rien faire. En quelques semaines, tout est fait. Ils ont détruit le monde. Ils ont détruit presque toutes les villes. Les avions sillonnent sans arrêt le ciel et enrasent les villes. Les communications sont surveillées. Il y a des gardes de partout. La Terre est devenue un véritable camp. It's broken, I think. Les humains travaillent pour eux. Les trésors terrestres qu'ils veulent emmener, qui se sont appropriés, sont mis dans des baraquements sous le désert du Sahara. Ils ont décidé une chose, c'est qu'une fois que les humains auront fini de faire leur travail de ramassage de richesses et de mettre sur CD-ROM leur savoir, ils seront éliminés et certains seront amenés sur la Lune pour construire une base qui servira à faire partir des fusées pour Mars, où là aussi l'on fera une base pour aller plus loin et construire d'autres fusées plus loin, etc., etc. On fait un tri des humains qui puissent aller sur la Lune. Ce va être les meilleurs. Les autres seront éliminés après leur travail sur Terre. Les humains sont furieux contre les savants qui ont créé ces monstres et en oublient même leur descendance humaine. Les humains oublient leur parenté avec eux. Les parents des clones sont tous tués par leurs propres enfants. Pour eux, leurs parents ne représentent rien. Le gouvernement mondial de clones se crée à Washington. Pourquoi l'Amérique? À cause de la NASA. Les humains, de toutes conditions, pays, race, etc., ne sont plus que divisés en trois catégories. Premièrement, celles qui ramassent le trésor de la Terre. Tableaux, bijoux, sculptures, films, livres, etc. Ils les déposent dans des côtes du Sahara. Deuxièmement, ceux qui s'occupent de la nourriture, agriculture, pêche, distributeurs d'aliments. etc. Troisièmement, ceux qui entassent en CD-ROM dans les bureaux le savoir humain. Chaque fois qu'un humain n'est plus capable de travailler, il est éliminé d'une balle dans la tête et son corps est brûlé. Les humains habitent dans des logements, mais sont surveillés. Chaque immeuble a un garde clone et chaque appartement a des micros et des caméras. Les clones ont pris les logements nationalisés, officiels, château, préfecture, mairie, logements de fonction, pris par les clones. Les écoles, universités sont interdites aux humains. Seuls les clowns ont le droit de se déplacer autrement qu'à pied. Couvre-feu. Pas la peine de cas spécial, les humains sont ceux qui ressemblent aux humains, où la perfection n'existe pas. Les savants humains en cachette essayent de voir ce qu'ils pourraient faire pour éliminer les clones. Ils se réunissent la nuit dans les caves. Les humains sont devenus des esclaves qu'ils ont créés. Les clowns apprennent aux enfants que les humains sont des esclaves qui sont créés et on leur apprend leur origine surhumaine, qui viennent d'une autre planète. Pour ces enfants éduqués comme ça, les humains ne sont que des animaux domestiques. On interdit aux humains de faire des enfants. Les clowns tuent les femmes enceintes et tous les humains de sexe mâle sont castrés. On leur coupe le sexe en entier. Quelques enfants humains sont camouflés en filles pour garder leur sexe. Des scientifiques font stocker le sperme pour plus tard, pour que l'espèce puisse continuer à exister. Les laboratoires de stockage de sperme se trouvent dans les caves cachées. Les hommes viennent en donner dès qu'ils peuvent, avant qu'on leur coupe le sexe. Malheureusement, les enfants mâles sont très vite castrés. La destruction de l'espèce humaine est en marche. Que faire? Les hommes ont créé ces choses et ces choses les détruisent. Alors, ils doivent détruire les clones. Quelques hommes créent des réseaux de résistance. Par l'armée, très peu nombreux, mais ils ont les savants pour eux. Ils font des tueries de clones. Comme les clowns sont les seuls à se servir de transport, train, avion, car, bateau, voiture, ils attaquent ces transports. Ils font dérailler les trains, exploser les wagons, couler les bateaux, etc. Mais la police clone est très importante et en capture beaucoup. Ils sont tués sur les coups. Sur le champ. Les clowns détruisent les bâtiments et en construisent d'autres immeubles pour mieux surveiller les humains. Ils créent des villes à architecture qui leur convient mieux. À cause des destructions des villes par les clowns, les humains, cela donne à la Terre un décor de champs de ruines de fin du monde. Des humains sont envoyés sur la Lune pour construire des bases de fusées et des villes sous globe. Nicolas, grâce à Jacques, est arrivé jusque-là. Maintenant, il faut trouver une fin à cette histoire. Maintenant qu'on a construit une chose parfaite, il faut la détruire. Un savant trouve qu'un clone qui se crée lui-même ou avec un autre clown, ses enfants ne peuvent pas procréer. Son système de procréation se dégénère. Donc, s'il veut continuer à procréer, il doit se régénérer avec un être humain normal, né normalement, formé normalement, fœtus normal. Les clowns, en tuant les humains, tuent leur race. Donc, il faut qu'ils redeviennent, qu'ils reviennent en arrière et à une création naturelle. Et si les clowns ont une procréation naturelle avec les humains, leur progéniture deviennent humaines. Les clowns ne peuvent vivre que de cette génération-là, où ils disparaissent, où ils redeviennent humains, normal, naturel. Ceci parce que leurs cellules procréatrices ne se renouvellent pas ou mal. Ce qui fait que le clown est un être plus fragile et de durée courte. La perfection a aussi ses faiblesses. Maintenant, il reste aux humains à trouver un procédé pour accélérer la destruction des clones. Car si l'on attend deux générations, les clones et les humains mourront. Jacques et Nicolas butent encore une fois. Que trouver pour accélérer la décomposition des clones ? Tout est possible en science-fiction du moment que ça a l'air vrai, c'est-à-dire logique. Dans un conte de fées, un coup de baguette magique et la chose est faite. Mais là, ils cherchent pendant 15 jours. L'on peut empêcher les clowns d'avoir une progéniture en leur mettant dans les aliments quelque chose qui les rende stériles. Cela fera 25 ans de gagner. C'est bon comme idée, mais il faut quelque chose qui fasse effet de suite. Et quoi? On leur met dans les aliments préparés pour eux des cellules sexuelles de deux sexes vivants et animales, de vaches, etc. Ce qui peut perturber leurs cellules qui n'ont pas l'habitude de recevoir des cellules mâles et femelles ensemble. Cela les ronge, détruit leurs cellules immunitaires parce qu'elles deviennent folles en ne reconnaissant pas les corps inconnus. Elles n'ont pas de programme pour les reconnaître, pour reconnaître les cellules des deux sexes animaux. Pour elles, c'est une chose à détruire sans savoir ce que c'est. Elles s'épuisent en détruisant ces cellules et deviennent folles, cancéreuses, est mort, ce qui tue les clones, car le cancer se généralise. Il va même jusqu'au cerveau. La chose est si rapide qu'on n'a pas le temps de faire quelque chose. Ils tombent comme des mouches. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive, vu que les humains n'ont rien. Les savants font des recherches, mais meurent aussi sans avoir trouvé. En un rien de temps, ils sont décimés. Les humains sont enfin libres. Les pays se referment. On fait des plans pour la reconstruction. Mais dans leur euphorie, on oublie que sur la Lune se trouvent quelques humains et des clones qui de la Lune peuvent revenir sur Terre après avoir appris des choses sur leur corps. Ils risquent pour continuer leur descendance, de prendre du sang humain pour se régénérer. Mais le sauront-ils? Le feront-ils? Pour le moment, sur la Terre, c'est la joie. Le film se termine par un bal populaire le soir. La caméra ira, danseur à la lune, une lune toute ronde, innocente. Le scénario est fini. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais Nicolas et Jacques sont satisfaits du scénario car il ne fait pas trop guerre des étoiles. l'on reste sur Terre et c'est la science-fiction bizarre sur un départ réaliste. Nicolas et Jean, une fois que le scénario est fini, décident de faire un petit voyage en Auvergne voir les volcans que Jacques aime tant. Ensuite, Nicolas retourne à Paris avec le scénario et se met au travail. Pour ce genre de film, il faut préparer plan par plan. Il a décidé de faire jouer des clones par des marionnettes et les acteurs seront des humains. Instructation par Chromaquet, etc. Il y a un très long plan de travail et a dessiné toutes les scènes. Choisir des décors, costumes, comédiens. Les décors seront des décors réels de ville, filmé et repris en laboratoire pour faire la transformation. Toutes les images sont traitées, redécoupées pour ajouter et enlever des choses et les couleurs sont retraitées. Le ciel sera un vrai ciel, mais où les nuages défileront plus vite et il sera à dominance rouge. Après avoir calculé les plans, on fait le tournage avec les comédiens sans les marionnettes ni les engins. Le tournage se fait en décor réel. Puis, l'on incruste et découpe pour y ajouter les marionnettes et les appareils. Ensuite, une fois que l'image est traitée et finie, on fait le son, les voix, les bruits, la musique, etc. Le film est fini, il le montre à Jacques qui le trouve très bien. Il dure 3 heures en 70 mm, les images, les décors sont formidables, l'histoire tient la route. Il est présenté en France et en Amérique, il marche bien. Nicolas est content, mais pour lui ce n'est pas ce genre de film qu'il aime. Ce tournage a été un amusement, il ne souhaite qu'une chose, c'est tourner une histoire normale avec des comédiens. Un soir, Nicolas est chez lui. On sonne à la porte. Il va ouvrir. Il ouvre. C'est Sylvie. Bonjour Nicolas. Elle entre. Ferme la porte. Viens au salon, Sylvie. Tiens, entre. Elle entre. Elle lui demande. Tu es seule? Oui. Assieds-toi. Elle s'assoit sur un fauteuil. Et lui en face d'elle. Il lui demande. Ça fait longtemps que tu es de retour? 3 jours. Et je me suis mariée là-bas. Mariée? Oui, avec un Esquimau. Quoi? Oui, j'ai fait la connaissance d'un beau jeune homme, grand et fort et tout. J'ai vécu avec sa tribu. J'ai vraiment vécu comme eux. Pêché, mangé, de la graisse, du phoque, cru, etc. C'était très intéressant. J'ai fait un reportage photo et écrit que je vais faire publier. Il lui demande, ça a dû être ça a dû être difficile de vivre comme eux. Elle lui répond. Non, surtout qu'il fait très froid, les nuits sont longues, et puis l'on vit tous dans la même pièce. Alors tu t'es marié?
Oui.
Il y avait un pasteur et je me suis marié. Je l'ai ramené ici. Mais j'ai des difficultés à cause des cafés. Là-bas, il buvait beaucoup d'alcool à cause du froid, mais là-bas, il n'y avait qu'un café dans le village et il avait peu d'argent. Ici, il fait plus chaud et il y a des cafés à chaque coin de rue. Chaque fois qu'il voit un café, il y rentre. Le soir, il est complètement fou, complètement saoul. Elle soupire et dit « Je me demande si j'ai pas fait une bêtise en l'amenant ici. La vie est si différente. Vous êtes où ? Chez père. Qu'en pensent ses parents ? Ils ont été surpris. Ils ne parlent pas un mot de français, mangent de la viande crue, boivent sans arrêt, s'assoient à terre, poussent de grands cris, ne se lavent pas, ils sentent leur anse. C'est difficile de lui faire comprendre qu'il doit se laver. Malgré toutes ces difficultés, je l'aime. Mais je me demande si j'ai pas fait une bêtise. Ici, il ne pourra rien faire. Il passera son temps à boire. »
Nicolas lui dit, « Je vois. »
Elle lui dit, « Là-bas, il pêchait. Il pêchait, il tuait les phoques. Il avait sa place dans la société. » Mais ici, elle regarde sa montre et lui dit « Je dois rentrer, il se fait tard. Comme tu voudras. Tu me le présenteras ?»«
Oui, bien sûr. » Il se lève pour la raccompagner.
Une semaine plus tard, il rend visite à ses parents. On l'a reçu au salon. Il y a sa sœur, sa mère et son père. L'ambiance semble tendue. La sœur est debout, le dos à la cheminée. Le père dit à Nicolas,
« Ta sœur veut divorcer. »
Elle dit à son frère, « Oui, il n'est pas heureux avec nous. Je veux qu'il retourne à son pays. » La mère dit à sa fille, « Alors, pourquoi t'es-tu mariée ? C'est pour divorcer de suite. Avoue que c'est une folie, ce mariage. »«
Non, je l'aime vraiment. »
La mère hausse les épaules. « Un sauvage !» Sylvie lui dit, « Un homme qui n'a pas la même culture que nous ?» Nicolas demande, « Qu'allez-vous faire ?» Sylvie lui dit, « J'en ai parlé, il est d'accord pour retourner dans son pays. Je vais partir avec lui, aller à Paris, voir l'ambassade du Canada et le raccompagner dans son pays. » Là-bas, je divorcerai. » Sa mère soupire et lui dit,
« Tu t'es marié pour rien. »
Son père dit,
« Laisse-la faire, elle est majeure. »
On a frappé à la porte. Le père dit,
« Entrez. »
C'est le domestique.
« Le repas est servi, monsieur. »
Et ils sortent du salon pour aller à la salle à manger. Nicolas, la mère dit à Nicolas,
« Assieds-toi à côté de ta sœur. »
Ils s'assoient tous.
Nicolas lui demande, « Il ne mange pas avec nous ?»
Elle lui dit, « Non, il est ivre mort, il est dans sa chambre. Ses parents font des histoires pour le divorce, mais ils sont bien contents. »
Une semaine après, elle est partie pour Paris et le Canada avec son mari. Nicolas ne l'a jamais vu. Un mois plus tard, elle revient voir son frère et lui dit « J'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Quel gâchis, marié, divorcé. » Nicolas l'embrasse et lui dit « Tu es encore jeune, tu peux encore changer. »
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur dont c'était la 16e partie. Production mise en scène Julien Jean-Pierre en